Il y a 15 jours, on avait commencé une réflexion, voilà, l'espérance, les leçons d'un navire, donc une espèce de parabole. Et j'aimerais qu'on continue un petit peu ce qu'on avait commencé la dernière fois, où on s'était appuyé sur ce passage de l'Épître aux Hébreux, où il nous est dit « L'espérance est pour nous comme une ancre de l'âme bien fermement fixée qui pénètre au-delà du voile ». Et on avait vu ensemble à quel point cette espérance est quelque chose de fort, cette ancre qui est posée dans la présence même de Dieu, hein, au cœur du sanctuaire. On ne peut pas aller plus profond, on ne peut pas aller plus proche de Dieu. Et cette ancre qui est tenue par un cordage extrêmement fort, extrêmement puissant. On avait vu qu'il faisait 61 cm de diamètre, donc c'est quelque chose. Tu peux passer, Rémi, à l'image suivante. Si tu, voilà, on s'était appuyé sur l'image de ce navire qui est le HMS Victory et qui est vraiment, voilà, c'est un gros bateau. Et puis il a quatre ancres avec ses cordages extrêmement forts qui relient l'ancre au bateau pour lui donner véritablement sa stabilité au cœur d'une tempête, au cœur de situations vraiment compliquées. Cette force qui est là, cette puissance qui est là, c'est notre espérance, posée dans la présence même de Dieu. Ça, c'est magnifique. J'allais dire, ça, c'est la théorie. Parce que l'expérience, elle n'est pas tout à fait terminée. Parce que nous savons bien que quand on passe par des épreuves, ça ne finit pas toujours bien. Et que des fois, on est quand même sérieusement ballotté. Et que parfois, c'est quand même un peu moins idéal, moins doctrinal que ce qu'on peut voir comme ça avec des belles théories. Belles théories. Il faut toujours se méfier. Des théories. J'ai vu la dernière fois que vous aimez bien les histoires. Alors, je vais vous raconter une histoire. On est en janvier 1797, pleine guerre napoléonienne. Napoléon décide d'envahir l'Angleterre et pour ce faire, comme beaucoup de gens avant lui, il décide d'envahir l'Irlande, pour utiliser l'Irlande comme tête de pont pour ensuite passer sur l'Angleterre. Il envoie une flotte composée de plusieurs dizaines de navires en Irlande. Ça, il a décidé dans son bureau à Paris, tout était bien posé. Le problème, c'est qu'il n'avait pas imaginé que la météo en Irlande, elle n'est pas toujours au beau fixe. Et il y a eu une tempête, une grosse tempête, qui a complètement disloqué la flotte. Et ils ont été dans l'incapacité d'aller jusque sur les plages irlandaises pour déverser les nombreux soldats qui étaient sur les bateaux. Donc l'ordre a été donné aux navires français de revenir sur les côtes françaises, rentrer à la maison. Et un de ces navires, qui s'appelait les Droits de l'Homme, on est peu de temps après la Révolution française, vous vous rappelez, hein, donc le navire qui s'appelle les Droits de l'Homme, est pris en chasse par deux frégates anglaises. Et il se trouve coincé, il est poussé vers la terre par ces deux frégates, et il se trouve au milieu de la baie d'Audierne. Vous avez déjà été en Bretagne, vous voyez où est la baie d'Audierne. Vous avez d'un côté cette baie, elle se ferme au nord par la chaussée de Saint qui repart très loin dans la mer jusqu'au phare d'Armen, qui est un phare très célèbre de Bretagne. Et puis au sud, elle est fermée par la chaussée de Pinmar qui continue aussi plusieurs kilomètres en mer. Donc c'est des chaînes montagneuses qui montent à quelques mètres à peine sous le niveau de la mer. Donc on a cette double ceinture qui fait que la baie d'Audierne est complètement fermée. Et la tempête est terrible. Les deux navires anglais empêchent les Droits de l'Homme de repartir vers la pleine mer et le bateau français n'a qu'une solution, celle de jeter l'ancre. La côte française est extrêmement dangereuse à cet endroit-là. Il y a énormément de récifs. Et le capitaine jette ses quatre ancres, Il ancre, on ne peut pas dire autrement, son navire dans le sol de la mer, et il est là, et la tempête fait rage. Mais les ancres tiennent, elles font leur job, elles sont solides, les cordages sont solides, tout tient bien, le bateau est sécurisé. Magnifique. Mais, vous imaginez qu'il y a un mais, à un moment donné, un craquement sinistre. Un deuxième craquement. Le bateau est en train de se briser parce que les cordages tirent tellement que le bateau ne résiste pas. Et le bateau se brise en deux. Les vagues s'engouffrent bien sûr dans l'épave. Les hommes sont jetés par-dessus bord et on retrouvera 600 corps au matin sur la plage de Plozévet. Si vous allez en Bretagne, à Plozévet, allez sur la plage, vous verrez, il y a un grand menhir qui a été dressé avec le récit de ce naufrage terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour le savoir, on va aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur du navire. Merci Rémi. À l'intérieur du navire, vous voyez... C'est peut-être pas très visible, vous voyez ces gros cordages qui sont là et qui s'enroulent autour de ces espèces de gros poteaux en bois. On voit que c'est gros, que c'est quand même du truc un peu costaud. Ce sont ce qu'on appelle les bits d'amarrage. Et puis, si tu prends l'image suivante, Rémi, on va voir, voilà, ici vous avez un plan, une coupe du Victory, le bateau qu'on a vu tout à l'heure, et vous voyez en rouge... Vous voyez ces bits d'amarrage, il y en a quatre, elles sont les unes derrière les autres. Elles sont énormes, elles descendent jusque sur la quille tout en bas. Elles sont faites pour tenir les chocs incroyables, les pressions de plusieurs tonnes que les cordages vont exercer sur le navire. Si cette structure n'est pas suffisante, eh bien il arrive ce qui est arrivé aux droits de l'homme. Le navire se déchire en deux, se casse, se brise. Et nous avons là, je crois, une belle image de ce qu'est la vie intérieure du croyant. Dieu nous fait des promesses absolument certaines. Dieu nous dit « Je suis avec vous ». Je mets l'ancre de l'espérance au cœur même de ma vie. Je vous relie à moi par ce cordage puissant. Mais où est-ce qu'on accroche ça en nous? Où est-ce qu'on accroche ça en nous? Sur une petite machine qu'on accrochait quelque part sur le pont, vous savez, on voit ces petits machins en fer, comme ça, un peu jolis, un peu doré même, ça fait... c'est joli. Qu'en est-il de notre vie intérieure? Qu'en est-il de la réalité de notre ancrage en Dieu? D'un côté, ça tient. Du côté de Dieu, ça tient. Mais de notre côté, est-ce que ça tient? Est-ce que nous sommes préparés à cela? Plusieurs chants de louanges parlaient de ça ce matin. J'ai beaucoup apprécié cela, de voir que, oui, il faut cet ancrage en nous aussi. Il faut que nous nous laissions fortifier par le Seigneur. Et vous savez, je crois qu'on a besoin. La seule manière de se fortifier, ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves. Si vous faites du sport... Eh bien, vous savez qu'il ne suffit pas que dès qu'on a un tout petit peu mal, on s'arrête. Moi, je n'aime pas courir. Voilà. Je pars du principe que quand on est adulte, on ne court plus. Voilà. Ça, c'est les enfants qui courent, mais les adultes, ils marchent. Voilà. J'aime beaucoup marcher, par contre. Quand on marche et qu'on fait des grosses montées, à un moment donné, ça fait mal, ça fait mal aux jambes. Mais c'est à ce moment-là que le corps se met vraiment à travailler. Si à ce moment-là, on sort le pliant et puis on s'arrête et puis qu'on fait le pique-nique, je veux dire, on ne va jamais rien fortifier en nous. Il faut un effort et il faut que cet effort y tienne, qu'il y ait une endurance. C'est pour cela que le Seigneur nous donne des épreuves. Et parfois, des épreuves vraiment difficiles. Des épreuves parfois vraiment difficiles. Il y a ces paroles terribles de Jérémie. Vous savez, Jérémie, ce prophète qui a été amené à vivre une vie tellement compliquée, jusqu'au moment où il pourra être celui qui dira « Seigneur, tu as posé une loi nouvelle et tu la poses dans notre cœur. » Jérémie est le premier prophète qui annonce la nouvelle alliance, qui annonce la réalité de ce que Jésus va véritablement faire dans notre vie. Mais pour arriver à cela, quelle vie compliquée et difficile. Je vous lis juste un passage dans Jérémie 20, verset 14. C'est ce qu'on appelle les confessions de Jérémie, où il dit, écoutez bien, « Maudit le jour où je fus enfanté, le jour où ma mère m'enfanta, qu'il ne devienne pas béni. Maudit l'homme qui annonça à mon père un fils aîné, et il le combla de joie. Que cet homme devienne pareil aux villes que de façon irrévocable le Seigneur a renversées, qu'il entende au matin des appels au secours et à midi des cris de guerre. Et lui, que ne m'a-t-il fait mourir dès le sein, ma mère serait devenue ma tombe. Et ça aurait mieux valu. » Terrible parole d'un homme qui passe par l'épreuve et qui ne voit que la souffrance et qui ne sait pas que le Seigneur est en train de fortifier son âme, qu'il est en train de construire en lui cette structure forte et solide qui lui permettra de tenir dans les épreuves à venir. Et elles vont venir, les épreuves. Pour mémoire, il a été enfermé dans une citerne avec de la boue jusqu'aux épaules. Imaginez cet homme vivant des situations épouvantables, mais qui a tenu, parce qu'en lui, il y avait quelque chose de fort. Imaginez David, le roi David, l'enfant David, qui arrive sur le champ de bataille avec Goliath. On connaît tous cette histoire qu'on nous a racontée à l'école du dimanche. David qui arrive là et qui voit Goliath et qui se dit « Bon, il faudrait aller se battre contre ce gaillard. Mais qu'est-ce que je pourrais prendre comme arme ?»« Oh, l'épée, il essaye l'épée. » »« Non, c'est un peu lourd, l'épée. Moi, je n'ai pas des biceps suffisants, quoi. Ça veut pas le faire. La lance, je suis pas tellement... Je suis pas sûr. Il en est plus grosse que moi. Non, je ne parle pas la lance. Ah, on pourrait essayer la fronde. Est-ce que quelqu'un a une fronde par là, à me prêter? C'est comme ça que ça s'est passé? Non. Quand David est arrivé, il avait des années de pratique de la fronde. Tous les jours, il s'exerçait. J'ai envie de dire, il tirait sur des boîtes de conserve, mais il n'y avait pas de boîtes de conserve à cette époque-là. Et quand ça devenait chaud, quand des bêtes féroces venaient attaquer son troupeau, il les attaquait avec sa fronde. Et quand il arrivait sur le champ de bataille, il était prêt, parce qu'il y avait des années de préparation. Le Seigneur veut nous préparer. Le Seigneur veut nous préparer pour les épreuves à venir, car les épreuves, elles sont là et elles seront là. N'en doutons pas. Le Seigneur ne nous dit jamais que la vie sera une vie facile. Jamais. Il nous dit que nous avons besoin de lui et que nous avons besoin de le laisser nous préparer. Alors, laissons le Seigneur agir en nous. Vous savez, il y a des gens qui se regimbent parfois contre l'épreuve, contre les difficultés, contre... La discipline pour prier, lire la Bible, chaque jour. Moi, je suis étonné le nombre de personnes qui peuvent aller au fitness toutes les semaines, hein, et même plusieurs fois par semaine, et qui vous disent, moi, j'aimerais bien faire mon culte tous les jours, mais j'ai pas le temps. Je n'aimais pas de jugement, hein, mais quand même. On était en bateau en face du Moatos, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça. Et le Moatos en Grèce, c'est une montagne un peu sacrée, où il y a des grands monastères de Russie, de plein de pays, des énormes bâtisses, c'est juste hallucinant. On n'a pas le droit de débarquer sur le Mont Athos, c'est une zone réservée, sainte. Voilà, si on veut y aller, il faut faire une demande des mois à l'avance, etc. C'est très compliqué. Et la guide qui était sur le bateau nous expliquait que voilà, les moines qui sont là, eh bien, ils ont divisé leur journée en 3 fois 8. Il y a 24 heures dans une journée, 3 fois 8. Alors, 8 heures pour travailler, ok. 8 heures pour dormir, ok. Et 8 heures pour prier, ok. Ils ont passé où ces 8 heures ? Moi, je bosse 8 heures, je dors 8 heures. C'est où les autres 8 heures ? J'ai pas le temps de prier, mais il reste 8 heures. Vous avez déjà réfléchi à ça ? Purée, il reste 8 heures ! Il reste 8 heures. Alors, un quart d'heure avec Dieu, ça devrait être possible. Et cette discipline, vous savez, cette discipline, elle est là. C'est ça qui fortifie notre âme. C'est ça qui va dresser ces énormes pieux à l'intérieur de notre être, sur lesquels les cordages de l'encre de Dieu, de l'espérance de Dieu, vont pouvoir se fixer, s'arrimer. C'est là-dessus. C'est pas ailleurs. C'est là-dessus. Et si nous faisons cela, alors nous pourrons tenir. Nous pourrons tenir. Mais ça demande de la discipline. Ça demande de la discipline. Et on n'aime pas beaucoup la discipline. Mais il n'y a rien d'autre à faire pour cela. Laissez le Seigneur fortifier mon âme. Quand on chante ça, Seigneur, fortifie mon âme, comment est-ce qu'on pense que ça va se passer ? Que c'est, et voilà, mon âme est fortifiée. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est du travail. C'est du travail. Et aujourd'hui, on est dans une mouvance spirituelle qui nous fait croire que on n'a pas besoin de travailler, que tout nous tombe du ciel, que tout nous tombe du ciel. Ben, c'est pas vrai. Il y a une part de travail de notre part. Discipline, apprendre, connaître la parole. Les promesses de Dieu, elles sont là. Mais il faut les connaître. Pour les connaître, il faut lire. Il faut lire. Voyez, c'est pas très sexy ce que je vous dis ce matin. Hein. C'est pas le message fun. Voilà. Je vous parle de discipline, mais rappelez-vous le bateau des droits de l'homme, arrivé en pleine tempête. Les ancres étaient là, les cordages étaient là, Dieu a fait sa part, mais à l'intérieur, il n'y avait que fragilité. Et ça n'a pas tenu. Et ça n'a pas tenu. Combien souvent nous voyons autour de nous des gens qui sombrent dans l'épreuve, parce qu'il n'y a pas cette force à l'intérieur, il n'y a pas cette structure, il n'y a pas cette construction que Dieu a patiemment, mois après moi, année après année, construit, établi à l'intérieur de notre être, nous permettant d'être des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Ça n'a rien à voir avec nos compétences, ça n'a rien à voir avec notre âge. Construit, solide, sur lesquels le Seigneur peut compter. Alors, je vous propose, on est au début de l'année encore, hein, on peut prendre des décisions comme ça, se faire des promesses. Je vous propose de soigner votre corps, parce que c'est important, hein, et soigner votre âme. Soignez votre âme. Prenez le temps, tous les jours, les 8 heures qui restent. Dans ces 8 heures, prenez le temps de la réflexion, de la méditation, des tête-à-tête avec Dieu, qui construisent, qui fortifient, qui affermissent notre être intérieur. Amen.
Amen.
Amen.